Il est 18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
On va lancer nos essais de phase 3 fin du mois de mai, début du mois de juin. Et simultanément, on va lancer notre production qui nous permettra d'avoir des doses disponibles pour les Français et pour le reste du monde.
Bientôt un vaccin français. Enfin, celui de Sanofi est en bonne voie et il serait apparemment très efficace.
Déconfinement, elles sont les grandes oubliées. Des maires réclament la réouverture des discothèques pour l'été.
Parcoursup, bonjour le casse-tête. Le contrôle continu biaise l'évaluation pour sélectionner les dossiers.
Le conflit au Proche-Orient suite, les présidents français et égyptiens parlent d'une seule voix. Ils soulignent la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités.
Et puis un grand pas franchi dans le monde du sport en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. La Fédération française de rugby autorise des sportifs transgenres à participer à des compétitions de haut niveau. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,28% à 6367 points.
La météo avec Anissa Haddadi, malheureusement ça ne s'arrange pas demain.
Non, effectivement, les journées se suivent et se ressemblent, Julien, avec une nouvelle fois de nombreuses averses demain. Les éclaircies seront plus généreuses dans le sud. Les températures restent en dessous des moyennes de saison. Allez, un petit peu de patience avant une parenthèse ensoleillée à partir de jeudi. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans la course au vaccin anti-Covid, Sanofi n'a donc pas dit son dernier mot.
Oui, ce matin sur Europe 1, son PDG confirmait les très bons résultats d'un essai clinique et le lancement des essais de phase 3 dans les prochaines semaines. Le laboratoire français qui est très confiant, la preuve, il va simultanément lancer sa production.
Pour Olivier Boguillot, certes, Sanofi n'a pas fait partie des premiers, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
10% de la planète est aujourd'hui vaccinée avec une seule dose. Donc il va falloir encore vacciner une grande partie de la population. Pour la France, c'est 54 millions à deux doses. On est à 8,8 millions de patients français vaccinés à deux doses aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a encore un peu de la marge. Et puis, vous savez, il y a des variants. Cette course, elle est assez longue. Donc notre vaccin apportera une solution supplémentaire. Efficace, on l'espère, à l'issue de ces essais de phase 3, mais les résultats présentés ce matin sont vraiment très encourageants. Je pense que notre vaccin, il sera très utile.
Le PDG de Sanofi, Olivier Boguillot, qui était l'invité exceptionnel de Sonia Mabrouk ce matin au micro d'Europe 1.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir.
Alors à partir de quand pourra-t-on se faire vacciner avec ce vaccin de Sanofi?
Eh bien, si tout va bien, dès novembre, c'est en tout cas le calendrier de Sanofi. L'entreprise va lancer dans les semaines à venir une dernière phase de test et en parallèle, le groupe va lancer la production de son vaccin. C'est un petit pari, mais Sanofi se dit très confiant quant à l'efficacité de ce vaccin. Il faut dire que le groupe n'a plus une minute à perdre, même si son vaccin est très prometteur, notamment sur les jeunes. Et sur la troisième dose, Sanofi va arriver avec environ un an de retard sur son principal concurrent. Les vaccins pour l'Europe devraient être produits en Europe et notamment en France. L'adjuvant, indispensable au vaccin, sera produit dans l'usine de Vitry de Sanofi. Les vaccins américains seront mis en bouteille aux États-Unis. Sanofi tape sur la production de plusieurs millions de doses d'ici à la fin de l'année.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Alors partout en France, les commerçants, les restaurateurs, les lieux culturels se préparent à un défi, accueillir les clients à partir de mercredi, évidemment, tout en respectant les normes sanitaires et en jonglant avec une météo qui s'annonce déjà capricieuse.
Après 7 mois de fermeture, sachant que les restaurants, les bars, les brasseries n'auront le droit de n'ouvrir que leurs terrasses et à 50% de leur capacité. À partir de mercredi également, le couvre-feu sera prolongé. Il passera de 19h à 21h.
Et puis on l'a appris aussi aujourd'hui, le parc Disneyland Paris pourra lui rouvrir ses portes le 17 juin. Ce sera un peu plus tôt pour le parc Astérix.
Oui, port du masque obligatoire pour les visiteurs de plus de 6 ans. Certains spectacles et événements pourraient être modifiés, bien sûr, en fonction de l'évolution des directives des autorités sanitaires.
Alors les discothèques, elles, eh bien, ce sont d'une certaine manière les grandes oubliées, elles n'ont pas encore de date de réouverture et elles le vivent très très mal.
Beaucoup ont déjà dit qu'elles allaient devoir mettre la clé sous la porte. Des boîtes de nuit qui ont reçu le soutien aujourd'hui d'une quinzaine de maires de stations balnéaires. Des maires qui redoutent l'organisation de fêtes sauvages sur les plages cet été et réclament donc la réouverture dès le 30 juin. Des élus qui signent une tribune dans le journal Le Parisien.
Oui,
à l'initiative du maire Les Républicains de la Baule, Franck Louvrier.
Au-delà de l'enjeu économique, et c'est vrai que ça touche plus de 50 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects, il y a aussi la volonté de tous les maires des littoraux qui ne veulent pas que leur plage se transforme cet été en discothèque géante ouverte à tous les trafics et les trafiquants. Il y a la proximité de l'eau, de la mer, il y a des dangers, il y a parfois des personnes alcoolisées. C'est là tout l'enjeu. Nous ne sommes pas irresponsables. Nous souhaitons qu'il y ait des mesures sanitaires de prise pour ces établissements. Je pense notamment à un pass sanitaire qui permettrait à la fois d'imposer à ceux qui veulent rentrer le test ou le vaccin. Ce serait beaucoup plus sécure que de laisser nos plages ouvertes à des soirées, je dirais, sauvages, qui risque de mal tourner.
Le maire Les Républicains de la Baule, Franck Louvrier au micro-européen de Romain Houg. Notez que le ministre de l'économie mènera une concertation avec l'ensemble des représentants des boîtes de nuit à la mi-juin. Les Anglais, eux, ont pris un petit peu d'avance, hein, puisque depuis aujourd'hui, ils peuvent dîner à l'intérieur des restaurants ou boire une bière au pub accoudé au comptoir.
Les 11 000 infirmiers anesthésistes de France en grève aujourd'hui.
Eux qui sont en première ligne, évidemment, hein, depuis le début de cette crise, réclament des hausses de salaire et surtout une reconnaissance de leur statut.
18h05, la suite du journal. On part maintenant au Proche-Orient, Isabelle. Cela fait déjà une semaine que toutes les nuits, le ciel s'embrase.
Israël et le Hamas restent sourds aux appels de la communauté internationale qui appelle à une désescalade. Aujourd'hui, le président égyptien Al-Sissi était à Paris où il s'est entretenu avec Emmanuel Macron tout à l'heure sur la question. Ils ont tous les deux souligné la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités. Jean-Sébastien Soldaini, l'Égypte est vraiment un médiateur incontournable entre Palestiniens et Israéliens.
C'est vraiment impossible de se passer de l'Égypte. C'est le médiateur historique du dossier. La géographie parle. D'abord, Gaza est une enclave encerclée par Israël, sauf sur 11 petits kilomètres de frontière avec l'Égypte. Le point de passage de Rafah est parfois le seul canal de communication, une petite perfusion quand le territoire est sous blocus. C'est le cas ici. La frontière a été ouverte pour laisser passer des ambulances. Il y a la géographie, il y a la diplomatie aussi. Le Caire discute aussi avec Tel Aviv. L'Égypte est le premier pays arabe à avoir signé un accord de paix avec Israël. Par les rues de Caen, ça compte, mais ça ne suffit pas puisque le président Sissi est beaucoup plus ferme ces derniers temps avec Israël. Il parle là d'agression, il condamne la récente incursion des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Le discours change parce que des pays du Golfe ont récemment normalisé leurs relations avec Israël. Certains apportent aussi leur soutien au Hamas, comme le Qatar. Donc l'Égypte se sent concurrencée. Elle veut réagir et garder la main. Pour cette raison, elle va tout tenter pour rester une pièce maîtresse.
Merci Jean-Sébastien Soldaini.
Et puis toujours à l'étranger, la France va aider le Soudan lourdement endetté.
Elle va lui prêter 1,5 milliard de dollars, le Soudan qui est engagé dans une transition démocratique.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Parcoursup, le casse-tête de l'évaluation en contrôle continu pour sélectionner les dossiers, on en parle.
Et la Fédération française de rugby qui autorise les transgenres dans les compétitions.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal et le Covid qui décidément creuse les inégalités, en particulier dans le monde de l'éducation, Isabelle.
Oui, l'approche de la fin d'année, les lycéens attendent en ce moment avec impatience les réponses à leurs vœux d'études formulés sur Parcoursup. Mais déjà, les profs du supérieur s'arrachent les cheveux et font ce constat. Virginie Riva, c'est très compliqué pour eux cette année de départager les candidats.
Oui, parce que cette année, ils n'ont sous les yeux que les notes du contrôle continu pour évaluer les candidats. Des notes souvent dithyrambiques, alors qu'on le sait, les enseignements ont été chamboulés, souvent à distance. Quelques enseignants de lycée ont même cru bon d'apposer la mention 100% présentiel pour favoriser leurs propres élèves lorsque ceux-ci n'étaient pas en demi-jauge. Hugo Billard est prof en prépa HEC à Saint-Michel de Picpus à Paris. Il n'a jamais vu ça.
On a l'impression que les établissements scolaires, les lycées, ont monté leurs notes d'une manière un peu artificielle. On avait des moyennes de classe à 16, 17, 18 dans presque toutes les matières, avec des appréciations d'établissements qui se ressemblaient toutes. Donc beaucoup plus que les années précédentes, la réputation établissement a joué dans le choix des dossiers que nous avons sélectionnés. Et de fait, nous avons souvent été obligés de laisser de côté un certain nombre de dossiers excellents qu'on recevait, mais parce qu'on n'avait pas vraiment confiance dans la manière dont les évaluations avaient eu lieu.
Le risque, c'est effectivement que le lycée d'origine ait partout plus de poids, ce qui aurait comme conséquence d'accroître les inégalités. Et puis, pour beaucoup d'enseignants en filière sélective, la question c'est, est-ce que le niveau des élèves correspondra réellement à leur dossier pour suivre correctement leur année ?
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Ce nouveau signe d'apaisement dans les relations commerciales transatlantiques, Bruxelles et Washington annoncent des discussions pour résoudre le problème. Ce sont les mots utilisés, des surcapacités mondiales d'acier et d'aluminium.
Et afin de lever à terme les taxes punitives qu'ils s'imposent depuis 3 ans, cette annonce commune marque de nouveau la volonté des deux partenaires de mettre un terme à des années de tensions commerciales sous le mandat de Donald Trump. Et puis c'est une révolution dans le monde du sport que l'on est en train de vivre. Révolution annoncée en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.
Oui, la Fédération française de rugby annonce que les transgenres pourront désormais intégrer les équipes et participer à toutes les compétitions officielles. Corinne Boulou, vous êtes avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Elle est la première à le faire et il y a une raison à cela, Corinne.
Oui, la Fédération de rugby a été interpellée il y a un an par une joueuse transgenre. Genre Alexia, qui évolue en première division de rugby près de Pau. C'était un garçon qui avait entamé sa transition et qui s'inquiétait alors des recommandations en octobre dernier de la Fédération internationale de rugby que les personnes transidentitaires ne disputent pas de compétition élite ou internationale. Elle s'inquiétait dans ces conditions, de ne plus pouvoir vivre sa passion rugby. Alors face à cet exemple, le seul connu en France à ce jour, la Fédération française a décidé, à l'inverse, d'ouvrir le champ des possibles, comme l'a expliqué son vice-président, médecin également, Serge Simon.
Nous avons décidé d'avoir une position inverse, c'est-à-dire d'inclure, de permettre et de traiter les questions qui se poseront si des questions se posent. Voilà, puis il y a des questions qui sont posées de sécurité, d'équité. Vous voyez que le débat est complexe parce qu'on accepte l'inégalité naturelle. Finalement, tu es grand, je suis petit, tu fais 130 kilos, j'en fais 80. Bon, la nature nous a dotés ainsi, mais on a le droit de jouer ensemble au risque de, éventuellement qu'il y ait des soucis. Mais c'est quand même une question qui doit se poser. C'est pour ça que, je vous dis, c'est une position de principe d'accepter et de discuter après s'il y avait des choses à discuter. Et non pas l'inverse, on ferme, on interdit aux gens, et sans regarder finalement la réalité.
Complexe débat sur l'équité sportive. Alors pour éviter les polémiques sur la question essentiellement de la participation des femmes transgenres potentiellement plus puissantes, ce sera du cas par cas avec deux principes. La joueuse transgenre doit avoir eu un traitement hormonal de plus de 12 mois, validé par une commission de la fédération, et que l'état civil ait validé aussi le prénom féminin.
Merci beaucoup Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. On précise par ailleurs qu'à travers le monde, 69 pays continuent encore à réprimer l'homosexualité et seuls 29 états autorisent pour l'instant les mariages entre personnes du même sexe.
Merci Isabelle. On vous retrouve évidemment à 18h30 pour le rappel des titres.